Bonsoir, bonsoir à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Guy Bertion, mais je suis président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Si j'étais une diva, 50 ans de musique, c'est possible, il y aurait ici un régisseur vous expliquant que je ne pourrais chanter parce que je suis grippé. Mais comme mon rôle consiste à vous souhaiter la bienvenue, j'ai pensé que, n'étant pas trop contagieux, je pouvais le faire. Excusez encore une fois la qualité de ma voix. Je vais laisser le soin à mon ami Claude Corbeau de vous présenter la logique de cette série et de vous dire à quel point il est heureux que nous puissions collaborer, Bibliothèque Archives nationales du Québec et l'UQAM. Je veux quand même vous dire que c'est un sentiment que je partage, même si je lui laisse le soin de l'évoquer, et de dire que dans la foulée de ce que nous avons fait ensemble autour de la Révolution tranquille, nous sommes très contents d'entreprendre une nouvelle série qui va porter sur le 50e anniversaire du ministère de la Culture. Je veux saluer donc et remercier Claude Corbeau de son rôle dans cette entreprise, la doyenne de la Faculté des arts, Louise Poisson, Denis Vaillancourt et son équipe du service audiovisuel de l'UQAM, Canal Savoir, dont la directrice Sylvie Godbout est avec nous, Télé-Québec, la PDG Michel Fortin et Virginie Lamontagne, ainsi que André Ménard, réalisateur. Encore une fois, très bonne soirée. Je vous souhaite donc d'être présent avec nous tout au long de cette année. Nous allons célébrer 50 ans de culture. Monsieur Corbeau.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur Bertion, et toute votre équipe de la Grande Bibliothèque de nous accueillir encore une fois dans ce lieu magnifique et qui est toujours pour moi un peu magique. C'est plus agréable d'être dans une bibliothèque souvent que dans un bureau administratif. Alors donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à l'ouverture de cette nouvelle série. Vous savez, il y a eu, comme le disait M. Bertium, au cours de l'année 2010, une série qui a été un remarquable succès, un cycle de 10 conférences sur la Révolution tranquille. Et c'était un défi pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec et pour notre université d'imaginer une autre série d'activités. Et nous avons, je pense, réussi. Avec l'aide d'un certain nombre de personnes, je salue à mon tour la doyenne Louise Poisson de la Faculté des arts de l'UQAM et ses collaborateurs et collaboratrices. Nous avons réussi, je pense, à préparer une série de conférences ou de rencontres sur l'évolution de la culture québécoise depuis 50 ans. 50 ans de chansons, d'art visuel, de musique, de théâtre, d'humour, d'architecture, de design, de cinéma, de danse, de littérature, de radio et de télévision. Comme vous voyez, la série couvrira à peu près toutes les dimensions de la vie culturelle. Et c'est très important, je pense, à la fois pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec et pour l'Université du Québec à Montréal de s'associer dans ce genre de projet. Nous avons ici et à l'UQAM la passion de l'accessibilité et de la démocratisation du savoir et de la culture. Et cette série sera une occasion pour beaucoup de personnes de mieux revoir, de mieux connaître les 50 dernières années d'évolution culturelle. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Je souhaite à cette série un grand succès et je vous invite à accueillir notre animatrice de ce soir, Mme Monique Giroux. Merci.
Bonsoir, bonsoir. Merci, monsieur. Merci à ceux qui nous permettent de venir à votre rencontre, de venir vous parler de chansons. J'aimerais, avant qu'on aborde ce sujet vaste et cette mission impossible, pour ne pas dire cette émission impossible, de parler de 50 ans de chansons en une heure. J'aimerais remercier M. Corbeau, Mme Poisson, et j'aimerais qu'on salue M. Bertium, dont c'est ce soir l'anniversaire, m'a-t-on dit. J'espère, M. Bertium, mais ça, on le saura dans une heure, que vous pourrez nous considérer comme un cadeau. Voyez? Aborder comme ça, en une heure, 50 ans de chansons, pour moi, c'est véritablement une mission impossible. Comment arriver Et je vous demanderai, quand vous partirez d'ici, de faire l'exercice en rentrant chez vous, de vous dire, et moi, de quoi j'aurais parlé? On va avoir l'occasion de se parler après, d'échanger. Il y aura une période comme ça d'échange, voire de questions, en tout cas d'échange. Mais qui sont ceux qui ont marqué? Qui sont ceux qui m'ont marqué? Qui sont ceux qui vous ont, les uns après les autres, marqué? On a chacun les nôtres. On a aussi, et l'histoire est là justement pour le prouver, on a aussi des références. On a particulièrement ici, je crois, au Québec, un rapport privilégié avec la chanson, cet art populaire s'il en est, cet art qui nous a accompagnés depuis longtemps, depuis même bien avant Félix, depuis bien avant 1961, puisque là, on doit aborder 50 ans. On va tricher un peu, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. On va tricher de quelques années un peu, vous allez comprendre pourquoi. Mais on a dans nos gènes, même si on n'est pas de cette époque-là, cette célèbre phrase qui disait « Un foyer où l'on chante est un foyer... » Qu'est-ce que je vous disais? Donc, et la chanson, tout le monde peut l'aborder. Plein de gens en font, on ne le saura jamais, parce qu'ils gardent ça pour eux. Parfois, certains me les envoient. Ça ne fait pas toujours le chemin qu'il faut pour se rendre jusqu'à une scène, jusqu'à un disque, jusqu'à une radio. Mais qui n'a pas écrit un jour un bout de quelque chose de 3-4 phrases en essayant de se dire « Et si c'était chanté, de quoi ça aurait l'air? » Parce qu'à travers ces chansons-là, on arrive à dire tant de choses. Pour parler donc de chansons avec vous, j'ai envie de dire, en sa présence, j'ai eu envie vraiment, et j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas un témoin de l'époque, mais bien un acteur des 5 dernières décennies, voire un peu plus. Il a été des Beaux-Os en 1959. Il a été sur la scène de la Place des Arts accompagnant Monique Lérac, fameux spectacle du début des années 60. Sur cette même scène avec Claude Léveillé, il a présenté Diane Dufresne à Luc Plamondon, René Claude à Luc Plamondon. Il a signé la musique du premier succès de Luc Plamondon. Il a créé un des plus grands spectacles qu'on a connus ici au Québec, qui est l'opéra Néligan, sur un livret de Michel Tremblay. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mon ami André Gagnon. Cette mission impossible, André, va pourtant falloir l'accomplir.
Ouais.
Et je disais tout à l'heure qu'on allait un peu tricher, puisque c'est difficile de commencer une histoire de la chanson sans reculer un tout petit peu de 1961 pour se rendre ne serait-ce qu'en 1959, où s'est produit vraiment un phénomène qui allait faire naître la chanson qui suivrait dans la prochaine décennie et qui nous suit encore aujourd'hui. C'est-à-dire un groupe qui s'appelait Les Beaux-Os, 1959. Qui étaient Les Beaux-Os, André? De quoi Les Beaux-Os étaient constitués, à part de beaux jeunes fous?
C'était fondé principalement par Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland et Hervé Brousseau. Et comme invités, qui devaient être là pendant 2 semaines, mais qui sont restés là aussi longtemps que Les Beaux-Os ont vécu, Raymond Lévesque, qui rentrait de Paris, et Clémence, qui commençait. Clémence avait une série à la télé, mais on commençait à la voir presque toutes les semaines à la télévision. Mais tantôt, tu as fait une correction, tu parlais de témoin, tu parlais d'acteur. Dans cette aventure des Beaux-Os, j'étais vraiment plus témoin qu'acteur. J'étais l'accompagnateur de presque tout le monde sur scène. Mais tu vois, je ne travaillais pas, Claude ne travaillait pas encore avec moi. Claude Léveillé chantait ses chansons assis au piano. Et c'est quelques années plus tard que je suis devenu son pianiste, arrangeur et tout ce que tu voudras. Hervé Brousseau a dû quitter à un moment donné parce qu'il avait des problèmes de santé. Il a été remplacé par Jacques Blanchet. Et ce groupe est resté tel quel pour... Tu sais, le temps qui passe fait qu'on a plus ou moins les précisions de temps.
Oui.
Mais je dirais que ça a duré au moins une année de plus.
En fait, c'est l'impact qui est peut-être plus important à considérer que le temps que ça a duré. Parce qu'on le disait tout à l'heure, en s'amusant dans la loge, il y a des chansons qui ont été créées en 2 minutes, d'autres en 2 ans. Il y en a qu'on a entendu 2 minutes, puis après, qui se sont éteintes. Et d'autres qui ont été créées à l'époque et qui font encore partie de notre génétique, en fait. Félix, pour faire un bref résumé, Félix était, revenait de France aussi, où il était allé en 1951, arrivé fin 1950. Ça fait donc 60 ans cette année que Félix a, pour ainsi dire, été découvert en France parce qu'il n'avait pas beaucoup de succès ici. Un journaliste à l'époque avait dit, parce que Félix prétendait plus à l'écriture de textes, de livres, de théâtre, avait dit « il faudrait que ce jeune homme se fasse couper les deux mains pour le bien de la littérature canadienne-française ». Ça t'écœure un gars, comprends-tu? Un jeune artiste qui ne veut que ça. Et il s'est retrouvé en France. On ne va pas refaire l'histoire de Félix. 1951, Jacques Kennedy, grâce à Jacques Normand, qui était un grand, grand animateur que les plus âgés d'entre nous connaissons. Et il a donc ouvert quelques voies, quelques portes, notamment à Raymond Lévesque, qui est allé en 1956 et qui a créé « Quand les hommes vivront d'amour » en France, au moment où il était en France. Pauline Julien aussi avait été à ce moment-là... faire un séjour en France. Mais là, 1959, tous ceux, André, que tu viens de nommer, se regroupent. Et là, on sent véritablement la naissance de quelque chose, d'une chanson véritablement identifiée. Ferland a enregistré 4 chansons sur 78 tours, et Claude Gauthier aussi. Claude Gauthier aurait été le premier auteur-compositeur, pour ainsi dire, à cette époque-là, a enregistré aussi. Pauline Julien a enregistré en 1961, donc l'année de la création du ministère de la Culture. Gilles Vigneault, on était là la semaine dernière au Jésus, il a refait un spectacle magnifique, 50 ans pile, hein, jour pour jour après son spectacle au Jésus. Gilles Vigneault a fait ses débuts en 1961. Est-ce qu'on se rend compte que ces gens-là, Gilles Vigneault, monument s'il en est, Félix, pareil, est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que toute cette chanson qu'on connaît et dont on va parler... a été créé en 5 décennies. Ce n'est rien, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, 5 petites décennies, et maintenant, nous voilà avec une chanson si forte et si bellement identifiée. Dédé, j'aimerais que tu me dises comment ça se passait chez les Beauzeaux, parce que ça, je ne l'ai véritablement jamais su. Ça se passait, c'était un lieu chez Beauzeaux?
C'était au-dessus d'un restaurant de la rue Crescent, au sud de Sainte-Catherine, et on ne jouait pas tous les soirs, si je me souviens bien. Peut-être qu'on jouait à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Et Claude Léveillé, assis à son piano, Jean-Pierre Ferland, qui s'accompagnait à la guitare, mais que j'accompagnais quand même un petit peu, je m'en mêlais un petit peu, disons. Et c'est des choses qui ne peuvent plus arriver aujourd'hui, parce que c'était le commencement de quelque chose. Alors, il ne peut pas y avoir 3 commencements de quelque chose. Ça a été... Les Beauzeaux, ça a été comme le moteur qui a fait que... Bien, tu sais, ceux et celles qui venaient tout de suite après, moi, ce que j'appelle la deuxième génération, les fils de Claude Léveillé, de Ferland et de je ne sais plus qui, là, ça, c'était...
Jean Blanchet, maître.
Oui, bon, bien, ça, c'était Claude Gauthier, Pierre Calvé.
Pierre Létourneau.
Pierre Létourneau. Essayez d'imaginer, moi, je m'en souviens comme c'était hier, il venait beaucoup chez moi, ou encore chez Marthe Choquette, qui est une actrice qu'on aimait beaucoup. Et il y avait... toujours quelqu'un qui avait sa guitare. On a été vraiment témoins très souvent de la naissance, du début d'une chanson qui allait devenir peut-être une chanson, mais qui souvent devenait une chanson. Et aujourd'hui, c'est une profusion de chansons qui se font ici. Là, on est exactement dans les mois où les albums sortent en ce moment.
Oui.
Entre la fête du travail et le jour de Noël... C'est incroyable tout ce qui sort.
Ouais.
Évidemment qu'à ce moment-là, il y en avait peut-être qu'il y avait 10 d'albums qui sortaient par année. Quoi qu'on en faisait plus, il faisait au moins 1 album par année et très souvent, il en faisait 2
oui,
par année.
Oui, c'est ça. La production était...
Exactement. Alors qu'aujourd'hui, bon, évidemment que là, c'est devenu une grosse industrie. C'est pas mauvais d'être une industrie. C'est aussi en même temps un grand mouvement musical. Moi, je garde des souvenirs de ça. Je ne peux pas préciser exactement ma pensée, mais un souvenir attendri de tout ce monde-là. D'ailleurs, dans les années 60, il faut savoir, dans les années 60, il s'est vendu des guitares au Québec. Comme... Non, mais c'est vrai, tout Tout le monde avait une guitare.
Même quand on n'en jouait pas, on en achetait une, on l'accrochait sur le mur.
Exactement.
J'ai fait ça, moi. Ben, moi, ma génération, c'était les flûtes traversières.
Ah oui, mon Dieu.
Parce que moi, c'était plus harmonium, tu comprends?
Oui.
Alors, ou Beau Dommage, c'est vrai, avec la flûte. Bon.
Mais c'était déjà mieux que la flûte à bec.
Oui, oui. La création de la Place des Arts a été un événement aussi extrêmement important pour la musique, pour la chanson d'ici. 1963, le premier à faire la Place des Arts, Claude Léveillé, à qui on pense, évidemment, oui. De qui tu as été très,
là.
Très proche.
Et j'étais déjà son pianiste à ce moment-là. C'était... On parlait de ça comme de quelque chose d'irréel. Qu'un artiste québécois fasse la salle Wilfrid Pelletier, qui contient exactement 2983 sièges.
Il les a comptés?
Bien, c'est que j'y ai joué par la suite.
Oui, oui,
j'ai
ben
produit
oui.
des choses. J'avais hâte que les billets se vendent, je veux dire. Mais de voir Claude face à face avec moi, là, de voir Claude devant cette foule-là, et la foule qui était dans la salle, ça, c'est une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. Et je prétends encore que j'étais témoin. J'étais acteur, je faisais partie de tout ça. Mais j'étais un témoin privilégié parce qu'à ce moment-là, je ne composais pas ni de la musique, ni de chansons, mais j'entendais les chansons nouvelles de tout le monde. Après Claude, il y en a eu plein d'autres qui ont fait la Place des Arts, mais il y en a combien qui ont... Dans ces années-là, là, il y avait tellement de jeunes qui écrivaient de nouvelles chansons et ces chansons-là ne se rendaient pas toujours jusqu'à l'oreille du public. Mais nous, en tant que témoins, on les a entendus. Et il y avait des interprètes féminins, hein, parce que très souvent, tu le sais mieux que moi, que la plupart des interprètes de la chanson, ici, c'est des femmes, très souvent.
Oui.
Et il y en avait là, qui ont eu des débuts parfois fulgurants et qu'on n'a plus revus par la suite. Mais la chanson, si on la met un grand C, là, la chanson a vécu plusieurs années et c'est grâce très souvent peut-être à ceux qui ont eu moins de succès, mais qui l'ont fait avec tellement de je sais pas moi, de... Aide-moi, là.
De passion, de passion. Sincérité, je crois.
Oui,
Et de candeur, parfois, aussi, il faut le dire.
Et, et d'innocence.
Oui, c'est ça. Ouais.
Dans le bon terme.
J'aime bien candeur, moi. Je ne sais pas vous autres, mais je ne sais pas, innocence.
Bien, c'est normal que tu aies des plus beaux mots.
Je suis assez innocente moi-même, c'est... alors j'essaie de...
Ah oui?
J'essaie d'arranger mes affaires. Parmi ces interprètes remarquables, puis on va y revenir parce qu'il y en a eu plusieurs, je pense à Monique Lérac.
Oui.
Monique Lérac, c'est quelqu'un, puis je l'ai encore présenté à l'émission dimanche sur Espace Musique. Et quand je vous dis ça entre nous, là, mais quand, puis André a déjà assisté à ça, quand je suis en studio, et, ou même quand on fait des émissions devant public, et qu'il y a une musique, et qu'il y a une chanson, je dirige l'orchestre, ou je joue du piano, ou de la guitare, puis des fois de la batterie, puis bon. Mais je suis investie physiquement de la musique et de la chanson. Et là, on a diffusé dimanche, c'est toute une musique, Monique Lérac, qui a été précédée de Pauline Julien, pour qui j'ai un respect infini, que j'ai bien connu trop tard, les deux dernières années de sa vie, malheureusement. Et je me disais, comment ça se fait que j'aime ça autant? Et je disais ça à voix haute à mon réalisateur qui m'a soufflé, parce que c'est pur. Et je réfléchis encore à sa réponse. Et on y revient, hein, la sincérité, passion, candeur, vérité.
Innocence.
il y tient. Innocence. Vraiment, Monique Lérac a, et elle ne chante plus depuis longtemps, j'ai eu le plaisir quasi exclusif, il y a quelques années, elle a été saluée au Chalet du Mont-Royal par un grand prix, puis on était à la même table avec Luc Plamondon, Marie-Denise Pelletier chantait, d'ailleurs, je crois que c'est toute une musique.
Oui.
Et elle s'est levée, et elle a chanté avec Marie-Denise Pelletier a cappella, mais personne n'entendait autour, il fallait être proche.
Pour cet amour qui vient tourner.
C'était pour cet amour, c'est ça, t'as raison. Ouais. Et là, je ne battais pas des cils, je vous jure, je me disais... vis cet instant pour tous ceux qui ne le vivent pas. Parce que Monique Lérac chantait là, debout, portée par son enthousiasme. Mais à la Place des Arts, mm-hmm. cette année-là, en 64, elle a créé un véritable phénomène. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément elle qu'on attendait. Elle était là en double programme. André l'accompagnait. J'aimerais aussi que tu, puisque tu as été témoin, que tu me racontes un peu cette soirée exceptionnelle dans l'histoire de la chanson.
Bien, cette soirée, il y avait un groupe de Français à l'époque qui faisait de la musique baroque sur des paroles parfois qui avaient... Ça n'avait aucune importance, c'était simplement l'accent que ça pouvait donner. qui s'appelait les Swingle Singers, et qui chantaient des choses dans le style baroque, je dis bien, de Jean-Sébastien Bach, et qui étaient vraiment des énormes vendeurs de disques. Et il y a un producteur qui a eu l'idée de faire une soirée combinée entre les Swingle Singers et Monet Clairac. Et Monet Clairac, très rapidement, a décidé de diriger cette soirée-là. Elle a ouvert la première, et après un certain nombre de chansons, elle a laissé la place aux Swingle Singers. Après l'entracte, les Swingle Singers sont revenus, si bien qu'elle a pu finir la soirée. Mais tout ça était tellement élégant. Et Monet Clairac, si je peux vous raconter très, très, très brièvement, je l'ai connue aussi dans son travail en dehors du Québec, parce qu'elle avait participé au Festival de Spot en Pologne, qui était un festival de la chanson qui était très couru par la chanson d'Europe, de toutes les langues. Et c'était un concours. Et elle a gagné tous les premiers prix qui étaient disponibles et qu'elle rapportait ici, meilleure chanteuse, meilleure interprète, celle qui chantait le mieux la chanson polonaise, et pour la meilleure chanson qui était « Mon pays » de Gilles Vigneault. Et ensuite, Carnegie Hall à New York, où j'étais là au piano. Je ne dis pas ça pour parler de moi, mais c'est pour vous dire l'envergure de la carrière de cette femme-là. Et moi qui ai été assis au piano pendant plusieurs années à l'entendre chanter, je peux vous témoigner que dans le dernier des petits coins reculés sur le lac des Esclaves, dans les territoires du Nord-Ouest, Monet Clairac chante comme si elle était dans une grande salle de concert, avec la même sincérité et le même drive et la même passion. Et c'est pas du tout un miracle, tout ce qu'elle a fait. Hein. Tout ça, c'était habité par ces années d'apprentissage comme actrice.
Oui, le travail.
Le travail énorme. C'était une grande comédienne aussi. Hein. Et elle chantait sur scène là, comme... C'était un plaisir, je vais vous dire. Là, je suis quelqu'un de privilégié d'avoir connu Claude et d'avoir connu Monet Clairac.
Claude Léveillé m'a raconté un jour une anecdote que tu connais sans doute. Monet Clairac avait demandé, dans le but de ce spectacle-là, qui était très précis, elle voulait chanter des chansons québécoises et elle avait demandé à des auteurs des chansons. Elle en avait demandé à Ferland, qui ne l'avait pas rappelé. Puis bon, elle était très insultée de ça. Elle l'avait rappelé trop tard. Et puis elle avait demandé à Claude Léveillé, puis elle avait demandé à Gilles Vigneault. Et elle avait demandé aux deux, sans les prévenir, sans leur dire, « Fais-moi une chanson sur le pays ». Alors, Gilles Vigneault a fait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Et Claude Léveillé a fait « Mon pays, c'est grand, à se taire, c'est gros ». Et ils sont invités au spectacle tous les deux, à la première de ce spectacle-là. Et Léveillé est dans la salle et elle fait la présentation sans nommer encore l'auteur de la chanson. Et elle dit « Je vais vous interpréter une chanson qui a pour titre « Mon pays ». Et Léveillé est persuadé, parce qu'il ne sait pas qu'elle a posé la même question à Vigneault. Et puis là, par « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Léveillé, complètement décontenancé par cette...
Ben, il y avait de quoi. Il avait tout appris, cette chanson-là.
Mais oui!
Il la préparait pour être entendue la première fois.
Oui. Et puis, c'est une chanson phénoménale. Évidemment, on pourrait, et là, je pense que je vous ai assez mis en garde de cette difficulté de tout ramasser en une heure et de parler de tout et de tout le monde, la création des boîtes à chansons qui est extrêmement importante. Et j'aimerais peut-être, avant de passer à l'hostie show, et donc au début des années 70, une décennie qui a aussi été très, très importante, André, que tu me dises, en tant que témoin, justement, et des chansons de Léveillé sur scène et des chansons de Monet Clairac sur scène, quelle était la réception du public? Parce qu'on était, en effet, le public se faisait en même temps que les chansons. Le public d'ici se faisait à la chanson d'ici en même temps que les chansons d'ici se faisaient. On parlait, Félix l'avait fait un peu avant, mais on parlait de nous. On nous nommait. Beau Dommage l'a fait très bien après, on va y revenir. Mais il nous nommait, nous existions. Alors qu'avant, on avait chanté La Complaine de la Butte et puis Douce ah ouais. France, puis bon, etc. Sans parler des chansons américaines, évidemment, ou de celles sud-américaines qui avaient été traduites et interprétées par Alice Roby, entre autres. Comment le public recevait cette fougue-là et ces mots-là et ces musiques bien à nous?
Il recevait et il en demandait. C'était, faut pas oublier que c'était la Révolution tranquille. Tout ça arrivait en même temps. Il y a eu comme une reconnaissance des talents qui, pendant des années, il faut bien le dire, on chantait très discrètement dans des petits boubouis où il y avait 22 personnes, tu comprends? Et pour que Claude Léveillé arrive à la Place des Arts au début des années 60, il y a eu plusieurs années de tentatives. Mais dans mon souvenir, en tout cas, il faut dire, évidemment, quand on parle des choses qui sont passées il y a 30 ou 40 ans, les souvenirs rapetissent peut-être les choses parfois. Mais le public était là pour entendre la chanson québécoise. Il ne voulait plus entendre des chansons françaises. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça, parce qu'on l'a installée, la chanson. Elle est là. Notre chanson québécoise est chantée par tout le monde, presque tout le monde, les jeunes autant que ceux qui ont plus d'âge. Et il recevait ça avec une espèce de gratitude. Le public était tellement ému. Je ne sais pas si on peut parler tout de suite de Claude Gauthier, mais quand Claude Gauthier a créé son fameux Grand Cipier et ensuite sa fameuse chanson dont j'oublie le titre.
Le plus beau voyage.
Le plus beau voyage. Là, c'était électrique. Hein? C'était vraiment électrique. Quand je dis que ça ne peut plus arriver, ces choses-là, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas y avoir encore d'enthousiasme. C'est sûr qu'il y en aura toujours, mais la première fois, c'est la première fois.
Oui, oui.
Quand la première fois est passée, bien, c'est les fois subséquentes. Et il y a autant de fois, F-O-I, que la première fois, mais le public était ravi d'entendre parler de lui et qu'on s'adresse à lui.
Mm-hmm. Et, ces dernières années, ce qui a peut-être créé ce même effet-là, ce même engouement-là, c'est peut-être des générations de la chanson du groupe Mes Aïeux, hein, qui a... pour une autre génération, puis quelques chansons des Cowboys fringants pour les plus jeunes générations, qui a pu susciter le même genre d'engouement ou les Loco-Locas dans un autre genre, évidemment.
Oui, puis Ferland était prolifique, il écrivait beaucoup, Jean-Pierre Ferland. Il écrivait des textes magnifiques. Jean-Pierre est un parolier extraordinaire. Claude Léveillé, de son côté, était un grand compositeur. Il y a encore aujourd'hui de ça, tu sais, Catherine Major, je trouve que c'est le meilleur exemple.
Oui.
Enfin, c'en est un bel exemple.
Oui.
Et plein d'autres, sans penser de tous ceux qui s'en viennent, qu'on ne connaît pas encore.
Oui,
moi,
oui.
Je dis de temps en temps que la chanson ou la vedette, de grosse vedette, disons, là, de la chanson québécoise, dans 2 ans, on ne la connaît pas encore. Mm. On n'en a jamais entendu parler.
Moi, c'est ce qui me motive à toujours écouter, à toujours chercher, à toujours essayer de trouver celui, celle qui va arriver avec quelque chose qui n'existe pas encore, en fait. Hein. Comme Charlebois, qui avait pourtant chanté, et on le voit sur la pochette de son premier disque, avec un veston, une cravate, avec les cheveux courts, bien, bien coiffés, avec sa guitare, bien tranquille et bien propre, et qui est arrivé complètement électrifié au moment de l'hostie show, parce que ça correspondait aussi à l'époque, fin des années 60, 1969 exactement, année érotique, comme disait Gainsbourg, Woodstock, toutes les révolutions qu'on connaît, Jimi Hendrix, Janis Joplin, et Robert a senti ça, il avait l'âge de ça, il était au bon endroit au bon moment, et d'ailleurs, ça a été une très, très grande provocation. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne reste pas d'image de ça, de l'hostie show. Ils ont trouvé certaines affaires, c'était extrêmement compliqué, parce que tout le monde dans la bande, donc il y avait Yvon Deschamps, Louise Forestier, Mouffe et Robert Charlebois, ne s'entendent pas forcément pour qu'on ressorte les images qui ont été tournées par Bro, et puis qu'il n'y a pas de son, il n'y a que des images, et puis bon. Mais c'est très étonnant, cet événement-là au Quatsou, qui a fait école, et qui a marqué l'imaginaire, mais dont il ne reste physiquement rien, parce que pas enregistré sur des supports. Mais ça a été le début d'une révolution, véritablement.
Mais Robert, pour parler de lui, Robert, c'est un compositeur, auteur-compositeur, interprète nord-américain. Il a strictement rien du chanteur français. Ça ne l'empêche pas d'avoir été un grand admirateur de Brassens, de Charles Trenet,
de Trenet,
et des autres. Et des autres. Mais il est avant tout, c'est nord-américain. Quand tu disais tout à l'heure qu'il était électrifié, c'était pas du tout un hasard, ça, là. C'était tout à fait son véritable caractère. Il y a eu un virage, hein? Quand est arrivé Charlebois, il y a eu un virage. Là, plutôt vers la gauche, je dirais.
Oui.
Hein? Moi, je pense qu'on peut le dire.
Hein? Oui, oui.
Puis moi, plus tard,
j'ai trouvé très étonnant de tourner à droite au feu rouge, je ne sais pas, mais... Je n'ai pas encore saisi celle-là. Je suis plutôt porté à...
Mais
en tout cas.
Mais il y en a eu d'autres par la suite qui ont fait des virages de tous côtés.
Oui.
Il y a eu Beau Dommage, évidemment. Beau Dommage, je ne sais pas si on est rendu là, parce que j'ai peur toujours de sauter une période.
Ah oui, non, mais écoute, on va revenir parce que je veux parler de Steve Fizet. Puis de Luc
Ah bon, bien, parlons donc de Steve Fizet.
Alors. de cet épisode. Alors, André a permis à Luc Plamondon de rencontrer Diane Dufresne, mais il a aussi composé la musique du premier hit, parce qu'il y en a eu après...
Quelques-uns.
Tripoté. Il y en a eu pour plus de 40 heures, Luc m'a dit, de chansons sans arrêt. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontré avec Luc? Comment cette chanson-là, dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été?
Luc, je l'ai rencontré chez Clairette. Il y en a sûrement dans la salle qui se souvient de la boîte chez Clairette, qui était justement une scène de lancement, justement, pour des jeunes artistes.
Qui a beaucoup fait, notamment pour Claude Dubois.
Exactement.
Ces débuts-là, jeune, à 12, 13 ans.
Oui. Quand il y avait des grands cheveux longs, blonds, là, qui s'arrêtaient quelque part.
Il chantait « J'en ai mangé des sandwichs à moutarde, du ballonné puis de la tête fromagée. » Il avait 13 ans.
Et donc, je croise Luc, et ça n'a pas été long qu'on devient chum. Puis il me dit « Moi aussi, j'écris des paroles parfois. » Et là, il arrive évidemment dans des papiers froissés et tout ça. Mais c'était vaguement poétique. C'est pas que la poésie n'est pas du tout intéressante en chanson, au contraire. Mais c'était pas exactement comme une chanson. Je sentais chez lui qu'il voulait aller vers le succès, tu comprends? Et alors, il me soumettait des musiques, pas des musiques, mais des paroles que je trouvais un petit peu trop poético-poétiques. Et alors, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais si... Je composais taratantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant deux jours plus tard, il est revenu avec des paroles. La cérémonie de déplier le papier et que je puisse le lire, ça a dû prendre au moins 20 minutes, tu comprends? C'est vrai, parce qu'on pense que Luc se pose pas trop de questions sur ce qu'il écrit, mais je vais vous dire qu'au contraire, ça lui prend du temps et toute sa modestie naturelle pour oser. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vraiment. Alors, cette chanson est arrivée comme ça arrive très souvent. Et ça a été le hit de l'été 70. Et on ne savait pas un hit, comment ça s'écrivait. Tu sais. Puis on l'a fait très...
Oui, parce que si on le savait, on en ferait, c'est
sûr. On l'a fait très innocemment.
Oui, c'est ça.
Et
c'était plein de candeur. Mais... Et Monique Lérac a entendu ça à la radio. Et, hein, c'est
oui,
ça?
Absolument.
Tu me corriges, hein, si je dis, parce que moi, je fais que rapporter ce que Luc ou Monique Lérac m'ont raconté. Et donc, elle entend ça à la radio, puis elle appelle Luc, qui avait beaucoup d'admiration déjà pour Monique Lérac, et elle dit « Bonjour, c'est Monique Lérac, j'ai entendu votre chanson à la radio, dans ma Camaro, j'ai tombé une oreille, j'ai les chemins d'été, je veux que vous m'écriviez des succès. » Paralysée, tu comprends? Paralysée.
Alors, la commande était passée.
Oui.
Et par la suite, on sait tous qu'il a travaillé beaucoup avec elle. Quelle école que d'avoir eu la chance, autant pour Luc en tant que parolier, que pour d'autres qui composaient de la musique, quelle chance d'avoir côtoyé cette femme-là, qui travaillait dans la rigueur rigoureuse, j'aime autant vous dire.
Et, ça, c'est rigoureux.
Ouais. Oui. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé, je pense qu'on va faire juste un petit retour de rien. Quand Monique Lérac a enregistré son album, Monique Lérac chante Vigneault l'éveillé. J'étais encore là.
Un album sublimissime.
Oui,
hein?
Oui.
Sublime.
Et c'était à l'époque où les chanteurs enregistraient live avec l'orchestre. Et moi, je sortais du conservatoire. Je n'avais pas appris au conservatoire comment faire les arrangements. Je l'ai appris en l'apprenant. Et je m'entends te dire que quand c'était bon pour la chanteuse, il fallait que ça soit bon à l'orchestre.
Ah oui?
Parce que non.
On ne la faisait pas reprendre?
Non, certainement pas. Mais c'était cette rigueur-là nécessaire à toute personne qui veut faire un métier, quel qu'il soit. Elle l'a transmis à beaucoup de ses, j'allais dire, de ses élèves, parce que j'avais l'impression parfois qu'elle était en train de me montrer tout ce que j'aurais dû savoir, puis sans qu'on s'en rende compte.
Oui.
Grande madame.
Il y a des gens encore qui ont essayé récemment de la ramener au devant de la scène, de la faire chanter pour des soirées, pour des hommages. Et puis, systématiquement, elle répond toujours « On ne peut pas être et avoir été. » Alors qu'elle pourrait être tentée, tu sais, comme chacun, de retrouver le public et tout ça. Non, elle, hein, c'est assez
fantastique. Je trouve ça assez admirable.
Un jour, j'ai, à l'émission, je racontais une anecdote comme ça parce que assez peu de gens en ont le souvenir. J'animais à l'époque, à la première chaîne, une émission le dimanche soir. Ça a duré un an ou deux. Et une émission de 4 heures. Et la dernière heure, on invitait un invité à inviter un invité. Est-ce que quelqu'un a suivi? Et j'avais invité Diane Dufresne. Elle aurait pu inviter qui elle voulait, sa maquilleuse, son beau-frère, un jeune chanteur qu'elle a découvert. C'était liberté totale. Et elle invite Monique Lérac. Et moi, là, ici présente, je me suis retrouvée en studio toute seule avec Diane Dufresne et Monique Lérac en face de moi, comme ça, de l'autre côté de la table, à les interviewer toutes les deux. Et je vous jure, puis ça, c'était il n'y a pas longtemps, là, c'était peut-être 7-8 ans. Ouais, pas 10 ans. Et elles sont face à face comme ça. Donc, j'ai leurs deux profils. Et Diane Dufresne a passé l'heure comme ça, devant Monique Lérac. Et elle levait la tête pour lui parler comme ça. Mais sinon, elle était carrément prosternée devant Monique Lérac. C'était... bon, ça ne s'entendait pas forcément à la radio, là, parce qu'on avait... Mais elle était... c'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Diane Dufresne, pareil, tu présentes Diane Dufresne.
Je présente Diane Dufresne.
À Luc Plamondon.
C'est-à-dire que je présente Luc à Diane.
Parce oui.
Que... Ah ben non, Diane n'était pas connue du tout. Non, il ne se connaissait pas. Mais ça s'est passé chez moi. Puis, alors au bout de, je ne sais pas moi, au bout de quelques semaines, ils étaient déjà en travail.
Ouais.
Ils étaient déjà en train de, je ne sais plus quelle chanson, les toutes premières.
C'est l'Opéra Cirque.
C'est l'Opéra Cirque, ouais. Bon. Ouais. Alors,
Un disque, une grande, grande révolution, qui probablement est arrivé aussi dans la foulée de la révolution qu'avait créée Charlebois, forcément, qui allait aussi créer une autre révolution avec Jaune de Jean-Pierre Ferland, oui. qui est plus âgé que Charlebois, le voyant revenir de Californie, voyant le Stitch Show, etc., se dit, il faut que je me réveille, il faut que je me secoue, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est vraiment Charlebois qui a eu un effet direct, sur Ferland, qui a fait Jaune, un autre des albums les plus remarquables dont on souligne encore les anniversaires, encore l'été dernier au Francofolie. Ferland est remonté sur scène pour refaire Jaune. Ça a été réenregistré, remixé. Ce disque-là a eu une incidence, notamment sur Ariane Moffatt, qui était loin d'être née, ses parents l'étaient à peine, au moment de la sortie de Jaune, mais qui pourtant l'a découvert et qui vouait un culte à ce disque-là, infini, un disque très, très important.
Et Beau Dommage.
Beau Dommage, 1974, ouais. Après la Quenouille Bleue, la création du groupe Beau Dommage, qui allait, personnellement, je le dis fièrement, changer ma vie, parce que j'ai l'air comme ça de... Mais je n'étais pas là, moi, en 64, là, à la Place des Arts. Là. J'avais un an, voyez-vous, Dédé, excuse-moi. J'ai pas pu te voir accompagner. J'ai pas pu être témoin innocente du spectacle de Monique Lérac avec les Swingle Singers, parce que j'étais pas bien vieille. Mais Beau Dommage est arrivé dans ma vie, et je me cite en exemple parce que ça a été pareil pour toute ma génération et pour toutes les générations, véritablement comme un coup de tonnerre, comme un éclair, alors que jusque-là, j'écoutais les chansons des parades de l'époque, Mimi et tu, des chansons très, très pop, en fait, qui tournaient à la radio. Et j'avais une amie qui était plus délurée que moi, qui écoutait Chaume FM, qui, à l'époque, était une radio bilingue,
oui.
Où on animait en français et en anglais, et où on présentait des chansons en français et en anglais. Et c'est en écoutant cette radio-là, j'avais 11 ans précisément, que j'ai entendu La Complaine du Phoque en Alaska, qui a littéralement changé ma vie. Allez savoir pourquoi, je n'étais pas plus fine qu'un autre, mais j'ai compris le deuxième degré de cette chanson tout de suite, en l'entendant. Et le premier degré me faisait pleurer aussi, parce que j'avais quand même l'âge de trouver ça triste, un phoque tout seul sur sa banquise avec son ballon sur son nez, là. Mais j'avais néanmoins compris le second degré. Et au fil du temps, j'ai eu une véritable passion pour les mots de Beau Dommage, parce qu'ils étaient les miens. C'est-à-dire que le Chinatown, je savais ce que c'était. Le Bois de Boulogne, je savais où ça se trouvait. Et le 7760 Saint-Vallier, qui n'est pas passé devant en essayant de se dire « Ça existe-tu pour vrai, cette adresse-là? Puis c'est-tu là pour vrai qu'ils habitent? » Et ça a été, là aussi, la confirmation que nous existions. Comme Félix l'avait fait en 51. D'ailleurs, il a repris lui-même, Félix, ce qu'il ne faisait pas souvent. Il a fait « Pour ton visage » de Jean-Pierre Ferland. Il a chanté « L'écharpe » de Maurice Fanon. Il a chanté... Quand les hommes vivront d'amour en 1974 à Québec, Le loup, le renard, le lion, avec Charlebois et avec Vigneault. Mais là, il a repris La complainte du phoque en Alaska. Et on sentait bien que Michel Rivard et toute la bande étaient ses descendants directs. Et les années 70, ça a été aussi la confirmation, disons, par la chanson, de ce qu'on vivait dans le monde. L'après-Vietnam, l'après-hippie, le total hippie. Les gens de ma génération, filles et garçons confondus, on se déguisait en Paul Pichet, là, je veux dire. On portait des jupes à fleurs, mais les bottes de travail de Paul, c'était... C'est d'ailleurs un look qui revient et qui me fait bien sourire et que je pourrais d'ailleurs me réapproprier parce que ça me convenait assez. C'était bien confortable.
Mais c'était... C'était un peu le look de Fabienne Thibault.
C'était le look de Fabienne Thibault, absolument et parfaitement. Oui, oui, tout à
Fabienne,
fait.
Fabienne, c'est fin des années 70.
C'est 76 exactement. 75 à la Chantaou, à Québec, toujours à Québec, où il s'en est passé des choses quand même. Ouais. Parce que le premier grand rassemblement, c'était le loup, le renard, le lion, où il y avait des centaines de milliers de gens que personne, ni de Vigneault, ni de Charlebois, ni de encore moins de Félix, qui était sorti de son île, convaincu par Charlebois puis Félix de venir chanter, où il se disait « Oh, ben, il va y avoir 10 000 personnes », et puis il en est venu des centaines de milliers, et ça a été le premier événement qui a secoué beaucoup, d'ailleurs, il faut le dire, le spectacle français, qui enviait ça beaucoup, ces grands spectacles extérieurs. Ça ne se faisait pas... J'ai entendu Maxime Le Forestier raconter qu'il avait été témoin de ça avec envie, en se disant « Pourquoi on ne fait pas ce genre de grand rassemblement-là » où des artistes se mélangent. Maintenant, ça se fait beaucoup. Et sans parler ici d'une fois cinq qui reste encore, je pense, le spectacle celui auquel on pense le plus spontanément.
Ça, c'était?
C'était Ferland, L'Éveillé, Charlebois, Deschamps, Vigneault, mise en scène par Jean Bissonnette. Guy Latraverse était derrière ça. Étais-tu là?
Non.
Oh! Moi non plus. Et est-ce que quelqu'un était là?
Oui.
Vous étiez là sur le Mont-Royal? Oh! Mais vous n'étiez pas bien vieille, vous, là. Vous êtes allé là avec vos parents? Au cégep, juste ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui y sont allés? Moi, je vous envie, là. Ah, quand même, hein? Oh, là, là, waouh!
Mais Yvon?
Ma mère ne voulait pas, moi. J'avais 13 ans, faut dire.
Yvon, est-ce qu'il chantait?
Yvon, ben oui, il avait chanté Aimons-nous.
Ah oui.
Absolument, il chantait. Puis Yvon, il chante bien. Mais trop de gens se sont moqués d'Yvon quand il chante. Et puis, il ne veut plus, du coup.
Ah non, il ne veut plus. Moi, ça me fait de la peine parce que je l'invitais quelque part, à un moment donné, sur une émission. Puis j'aurais voulu qu'il chante, puis il ne chante plus.
Ouais. Harmonium.
Harmonium.
Harmonium. Phénoménal. Un spectacle en Californie, quand même, c'était pas rien. Hein? Puis bon, un peu partout aussi, en Europe, évidemment. Vraiment, là aussi, c'est le mot qui me vient spontanément, mais une sorte de révolution qui n'était armée que de fleurs au fusil, évidemment. Mais quel génie que ce Serge Fiori, qui a créé vraiment des univers. Et ça, j'étais le public cible d'Harmonium et de Beau Dommage. Parce que je suis née en 63, bon... Faites le calcul, 12-13 ans, la rébellion de l'adolescente, les chansons d'Harmonium, Corridor. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, disais-je à mes parents. Ça parlait pour moi, là. Ça parlait pour toute ma génération. On était investis de ça. Mais quand je dis investis, c'était notre religion. C'était notre religion. Et d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que ma génération, on cessait d'y aller. On n'y allait plus après 12-13 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'est investi dans ces musiques-là? Dans Garoulou aussi, qui reprenait en rock le folklore, Victoria, La Belle Françoise, etc., des chansons traditionnelles, mais qui étaient refaites au goût du jour. Jimmy Bertrand, pareil.
Mais j'allais dire justement qu'en t'entendant parler, qu'il y a eu une longue période où la chanson était vraiment citadine. Où les auteurs, c'était non seulement urbain, mais très souvent, c'était très montréalais.
Oui, c'est vrai, oui.
Et ça fait pas mal aux autres, là, parce qu'il y a d'autres chansons qui ont été composées ailleurs aussi. Mais tout ça, c'était... Moi, ça m'est toujours apparu comme des chansons de ville, cette période... Beau Dommage.
Oui, Beau Dommage particulièrement. Oui. Mais je pense que Jim et Bertrand... Garoulou, il y avait les Séguins. Richard et Marie-Claire Séguin étaient magnifiques. Il y avait une resurgence du terroir aussi.
Bon, ben,
il y avait quelque chose de la commune qui nous donnait envie
d'aller
planter des choux de Bruxelles, puis de vivre en gang, puis de faire l'amour et pas la guerre, etc. Et on ne va pas passer sous silence l'élection du Parti québécois, 15 novembre 1976, quelques mois après cette 1x5 sur le Mont-Royal, qui a été véritablement explosif et qui a permis, parce que jamais autant de gens ne s'étaient réunis dans un même lieu, dans un même espace. Jean Bissonnette racontait qu'ils avaient réussi à aller faire ça sur le Mont-Royal. Il avait convaincu Drapeau d'aller faire ça sur le Mont-Royal. Et puis après, bon, ça ne s'est plus jamais refait, alors qu'on en a rêvé que ça se refasse. Mais ce genre d'événement-là, ça ne peut pas se refaire.
C'est ce qu'a lancé pour de bon Ginette Reno.
Ginette Reno, absolument, qui avait chanté un peu plus loin, sans comprendre ce qui lui arrivait, parce que c'est très curieux, cette chanson n'avait pas le sens que le public lui a accordé. Jean-Pierre l'a souvent expliqué, c'est une chanson d'amour, une chanson de séparation, mais d'amour d'un homme avec une femme, alors que les gens qui étaient là, présents, avaient compris un autre degré complètement de cette chanson-là. On ne parlait plus de la même séparation, et ça a créé, là, vraiment l'ovation du siècle. Je pense que Ginette s'en est pas encore remise. Ça l'a. Bon, on la comprend parce que, en plus, elle arrivait elle-même de Californie, elle débarquait. Elle était pas. Je pense qu'elle n'avait pas pris le pouls encore de ce qui se passait au
Puis
Québec à ce moment-là.
Elle faisait pas partie des chanteurs et des chanteuses qu'on appelait les chansonniers.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui était un autre mouvement. Puis il y avait la chanson totalement populaire.
Oui.
Pierre Lalonde, je sais pas, Michel Louvain et tout ça.
Oui, Mimi et tu, ce que j'écoutais avant.
Exactement. Et Ginette, qui était, mon Dieu, peut-être un petit peu des deux, discrètement.
Oui. Celle qui a été le plus des deux, d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça, c'est René Claude, en fait.
Oui.
Hein, René Claude, qui à la fois chantait déjà des chansons de Léo Ferré, mais qui chantait aussi des chansons très populaires et qui figuraient au
de
palmarès.
Stéphane
et
de chansons
Stéphane
Venn,
notamment, qui ont été des succès, des hits incontestables. Et il y en a eu une quantité absolument phénoménal. Il y a un spectacle, puis on voit une photo ici de Claude Léveillé qui est extraite de ce spectacle-là. C'est un spectacle qui a été présenté au Stade olympique en 1977, qui s'appelait « La nuit de la Saint-Jean ». Alors, sept mois après l'élection du Parti québécois, la Saint-Jean se fait au Stade olympique. Les Olympiques ont eu lieu l'été d'avant. Quelle année, hein, quand même, quelle... Est-ce que quelques-uns d'entre vous étiez là au Stade olympique? Félix Leclerc, Claude Léveillé, la nuit de la Saint-Jean. Vous vous en souvenez pas, hein? Vous fumiez le tapis déjà.
Diane Dufresne.
Diane Dufresne.
J'étais là.
Bon.
C'était animé par Louise Marleau, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et Denise Filiatro. Je me souviens que Denise était là.
Possible.
Mais c'était une folie. Parce que les gens devaient quand même payer un peu pour aller au stade.
Ah oui, oui, oui.
Et moi, je trouve qu'une fête, nationale, on va là gratuitement.
Oui, 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 tout à fait.
Et c'est 50 000 personnes qui peuvent.
Ah oui, oui. Bien tassé, on a dû être 77 au spectacle de Diane Dufresne.
Oui.
77 000, je veux dire. Assis les uns sur les autres.
Oui.
Spectacle Magie Rose au Stade olympique. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des spectacles comme ça au Stade olympique. Magie Rose, Diane Dufresne, qui arrive splendide avec sa traîne de 400 pieds de long. Hein, pour les plus jeunes, ça fait 130 mètres, ça, 120 mètres, 130 mètres de long. En fait, ça va du marbre au champ-centre, parce qu'à l'époque, il y avait du baseball, là. Et c'est comme ça qu'on a su que ça mesurait 400 pieds. Et elle s'entraînait pour arriver à faire ce spectacle-là. Elle s'entraînait à faire du jogging sur le circuit Gilles Villeneuve, là, au parc Jean Drapeau. Beau temps, mauvais temps, par pluie, par neige, par verglas. Parce que c'était véritablement une épreuve physique. Il y avait Manhattan Transfer qui était là. Il y avait Jacques Higelin aussi sur ce spectacle. Il y avait une grande roue. C'était. Tu étais là, j'imagine?
Moi, oui, j'étais là.
Qui n'était pas là? Qui sont ceux qui étaient là au show? Ah, regarde. Tu vois, hein? Étiez-vous habillé en rose? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon coton ouaté rose, nanana. Mais c'était véritablement...
C'est un événement.
C'est un événement.
C'est un événement dont on parlera tout le temps. Hein. Je suis sûr de cette chose-là dans les années à venir, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, si on est encore capable de parler. Non, mais je
veux dire, pense que personne ici dans 100 ans sera capable de dire grand-chose.
C'est pourquoi il faut le dire ce soir.
C'est pourquoi il faut en parler maintenant.
Ouais,
mais Diane Dufresne, autre, on l'a abordé tout à l'heure brièvement, là, mais autre interprète, Charles Aznavour dit que c'est la plus grande chanteuse au monde. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est une artiste qui, sur scène, se métamorphose littéralement et qui a un rapport tellement particulier avec le public aussi. Hein?
Moi, je peux me vanter. Bon, c'est pas me vanter, mais je peux vous dire que j'ai été le premier à l'entendre. Parce qu'elle était venue entendre un spectacle de René Claude, dont j'étais le pianiste. Puis à l'entracte, elle s'est présentée puis elle, avec une amie, puis en me demandant si je ne pourrais pas chanter. En tout cas, je lui ai donné rendez-vous pour la semaine suivante. Puis je l'ai entendue chanter, puis je l'ai amenée tout de suite chez Clairette, qui aidait justement les jeunes. Et je l'ai présentée à Luc peu de temps après. C'est une belle histoire parce que elle travaillait dans un hôpital de Montréal à ce moment-là, comme aide... C'était même pas une infirmière, c'était
une aide-infirmière. Ah ouais.
Puis sur l'heure du midi, elle était venue chez moi pour chanter quelques chansons. Puis elle avait déjà, c'était déjà inscrit dans sa voix, dans sa gestuelle, dans sa façon d'être. Tu sais, un petit peu comme ça, là.
Oui.
Et tout ce qu'on a connu de Diane par la suite était déjà évident ce midi-là.
Qui est allée étudier en France, qui est allée chanter notamment à l'Écluse, là où Barbara faisait ses débuts, où elle chantait des chansons françaises classiques, en fait. Hein, on a entendu des archives de ça. C'était assez loin de ce qu'elle fait maintenant, mais quelle interprète magnifique, puis quelle auteure aussi, parce que maintenant, elle écrit. Une des artistes, d'ailleurs, qui a fait partie de Starmania, qui est un événement extrêmement important dans l'histoire de la chanson d'ici. Je pense qu'on ne peut pas parler des 50 ans de la chanson sans évoquer Starmania, qui a été vraiment le premier pont solide, c'est-à-dire d'une certaine réciprocité, en tout cas, parce que l'auteur québécois, le compositeur français, la moitié de la distribution québécoise, dont le rôle les plus importants, et l'autre moitié française, Claude Dubois sur le disque et pas sur le spectacle, Diane Dufresne, Nanette Workman, Fabienne Thibault, France Gall, Daniel Balavoine. Et ce sont des spectacles, c'est une production qui se... Enfin, pas cette production-là, mais le spectacle comme tel, l'œuvre comme tel, qui joue encore, qui est encore dans la mémoire de tout le monde et qui a fait découvrir aussi aux Français qui n'avaient pas eu beaucoup, beaucoup d'écho, à part peut-être en effet Beau Dommage et Charlebois, jusque-là, des artistes québécois et qui a ouvert la porte après à tous ces artistes qui aujourd'hui, qui ont 30 ans aujourd'hui et qui vont chanter en France comme ils vont chanter en tournée au Vieux-Terrebonne ou à Québec. Parce que maintenant, les ponts sont solides et les échanges le sont beaucoup plus, beaucoup plus faciles aussi, et dans l'industrie et parmi les artistes. Il y a beaucoup d'échanges avec les artistes aussi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait eu Maxime Le Forestier qui avait fait des choses avec Michel Rivard. Il y avait comme ça, mais c'était assez ciblé.
Par petites touches, oui.
Par petites touches, tandis que maintenant, les échanges sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. Est-ce que tu as vu la première production de Starmania?
Exactement. Je l'ai vue à Paris en 79, au printemps 79, en avril, je crois.
Oui.
Je suis allé à la course, si je peux dire, parce que j'ai pu arriver à temps pour voir la dernière représentation. Par la suite, bon, il y a eu je ne sais plus combien de productions.
Ben, il y en a eu beaucoup.
Mais moi, je garde un souvenir impérissable de Fabienne. C'était tellement beau. Fabienne chantait, elle nous mettait à l'aise quand elle chantait. Ça avait l'air tellement facile. Tu sais, c'était comme ça, là. Elle chantait comme elle respirait. J'en parle au passé parce qu'elle chante moins maintenant, puis d'autant plus qu'elle vit en France maintenant. Oui, on peut le dire, je pense.
Oui, absolument.
Mais ce moment-là, ça a été un moment important pour bien du monde. Presque tous ceux qui étaient dans cette production-là sont toujours dans le métier aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait, absolument.
Ouais, absolument.
Ouais. Il y a eu, évidemment, l'importance n'est plus à prouver du rock québécois. C'est-à-dire qu'en effet, après Robert Charlebois, à la fin des années 60, il y a eu un passage, je le disais, là, au show de Bruxelles. Et puis après, à la culture de la commune et où ça coche tricoté. Et l'arrivée du rock en français, non seulement en français, mais l'arrivée du rock en québécois avec Offenbach, avec Corbeau. J'ai pas encore vu le film sur Jerry parce que j'étais pas ici quand ça a été présenté. Ça doit plus être à l'affiche, mais je vais attendre que ça sorte en DVD parce que voilà là un personnage éminemment important de l'histoire de notre chanson qui faisait la preuve, si vous voulez, de notre distinction, tout comme Robert l'avait fait aussi, de notre américanité musicale et de nos mots qui sonnent en français, qui étaient les mots des auteurs qui écrivaient pour lui, évidemment, pour le groupe, en fait, pour Offenbach. Oui. Puis après...
Marjo après.
Ben oui,
Marjo.
Ouais.
Moi, j'ai un faible pour Marjo. J'adore. Non, mais j'aime ce côté que ça.
Gauthier.
Oui. Ouais. Et c'est, non.
Mais tu as un faible, André, pour les interprètes. Alors, oui. En général, Monique Lérac, Diane Dufresne, René Claude...
Oui.
Lucille Dumont, qu'on n'a pas évoqué parce que... Elle a eu, c'est vrai, ses belles grandes années un petit peu avant, dans les années 40, dans les années 50, aussi dans les années 60. Lucille Dumont, qui est toujours bien, bien vivante, qui est toujours des nôtres et qu'on a vu il y a deux semaines ensemble et qui est droite comme un i. Elle a 93 ou 94 ans, puis elle est absolument magnifique et splendide. Et je regrette, je le dis devant vous, que la disque au gala ne fasse plus d'hommage, ne rende plus d'hommage. Les Gémeaux ont rendu un hommage backstage à Victor Lévy-Beaulieu, mais la disque n'en rend pas non plus, il faudrait peut-être s'en souvenir, ne rend plus hommage, et Lucille Dumont n'a jamais eu de Félix hommage, alors qu'elle est toujours des nôtres, et puis qu'elle a enseigné, hein, qu'elle a toute sa vie, elle a enseigné à combien de générations d'interprètes.
Il y a le prix Lucille Dumont maintenant,
ouais, ouais.
Que Michel Louvain a gagné cette année.
Oui, pour les interprètes.
Exactement. Non, tu me dis que j'aime mieux, c'est pas que j'aime mieux, mais que
j'ai un penchant pour les... Oui.
J'ai un penchant. Oui, mais j'ai aussi un penchant. J'ai plusieurs penchants. J'ai... non, mais le...
T'as un penchant pour l'innocence, son normal.
Oui. Mais le travail des auteurs-compositeurs aussi, là, vraiment.
Ouais.
Vraiment. Et c'est pour ça que quand t'arrives... Une jeune nouvelle comme Catherine Major. Je dis Catherine Major parce que j'ai entendu récemment une de ses chansons. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Non seulement il y en a d'autres, mais il y en a plusieurs autres, c'est sûr. Mais qu'une interprète ou qu'un interprète ait la modestie de se pencher sur le travail de quelqu'un d'autre,
oui.
Et de s'accaparer les mots d'une chanson, en faire quelque chose qui lui appartienne, finalement. René Claude, quand elle chante une chanson, on sait très bien que ce n'est pas elle qui écrit les paroles, mais ça devient une chanson chantée par René Claude.
René Claude a fait partie de la distribution de ce que je considère être un des plus beaux spectacles qui a été fait ici. C'est l'opéra Nelligan, dont André a composé la musique sur un livret de Michel Tremblay, qui a été présenté trop brièvement à la Place des Arts dans sa conception opératique, si je puis dire, avec les décors, avec les costumes et tout ça. Puis ça a été repris plus récemment avec l'Orchestre symphonique, avec d'autres interprètes. Et René chante là-dedans l'indifférence, un air extraordinaire. Hein. Vraiment une chanson. À chaque fois que je fais tourner cette chanson à l'émission, il y a toujours des gens pour appeler, pour savoir ce que c'est, parce que des gens la découvrent encore et où est-ce qu'on peut la trouver. C'est vraiment un spectacle remarquable.
Oui, puis cette chanson, cet air de l'indifférence, je ne veux pas minimiser mes mérites, mais il reste que cette chanson, de la part de Michel Tremblay, était tellement bien amenée dans la scène qui précède, il fallait qu'il y ait une chanson qui est vraiment solide, là.
Mm-hmm.
Et Michel m'a envoyé un texte, évidemment, et là, j'allais appeler, parce que le travail que j'ai fait avec Michel, il écrivait une scène où il écrivait des paroles d'une future chanson et que je mettais en musique par la suite. Mais dans le cas de l'indifférence, je lui ai dit, je vais garder les deux premières phrases, puis s'il te plaît, laisse-moi aller. Je vais écrire toute la chanson, mm-hmm. Et là, toi, tu mettras les paroles dessus.
Mm-hmm.
Et j'ai fait ça pour l'air de l'indifférence, et j'ai fait ça aussi pour La Dame en noir, à la
magnifique.
Fin chantée par la mère.
Si vous pouvez mettre la main sur un enregistrement de ça, si vous ne l'avez pas déjà, vraiment, l'opéra Nelligan, et c'est pas parce qu'André est là, mais je l'ai souvent dit, souvent même dans son dos, que c'était une œuvre absolument remarquable. Le temps passe et le temps passe trop vite. Je vous avais prévenu que cette mission était impossible. Eh bien, c'est la preuve en est qu'il faut conclure. Mais comment conclure sans parler des colloques de Dédé Fortin, de Richard Desjardins, de Daniel Boucher, comment conclure sans parler de cette génération, de cette décennie des années 2000, Pierre Lapointe, Ariane Moffat, mes aïeux, les Cowboys fringants, Yann Perrault, Mara Tremblay, Marie-Jo Thériault, Martin Léon, tous ces artistes dont j'espère vous suivez la carrière et dont j'espère on pourra reparler dans 50 ans. Quand on viendra fêter, André, les 100 ans du ministère de la Culture.
Mais je t'entends parler, Monique, mais tu es vraiment à la sommité de... C'est toi qui as le plus de connaissances de ce travail-là. De ce métier-là.
Je ne sais pas, mais j'aime ça.
Et t'en parles avec tellement de plaisir, c'est à se demander si tu n'aurais pas aimé être chanteuse.
Ben non.
Bon.
C'est probablement bien. Pour ça, parce que si ça avait été le cas, peut-être que j'aurais été frustrée, j'aurais eu de l'amertume de je ne sais pas quoi. Jamais, je vous jure.
Et on peut bien dire que ça aurait peut-être duré moins longtemps.
Oui,
aussi.
Probablement. Mais c'est vrai, j'ai jamais voulu être chanteuse. Déjà petite, je faisais chanter les autres. Alors, je vous remercie de ça. Merci aussi au nom de tous ceux qui aiment la chanson, de tous ceux qui aiment la musique. Ouais. André, merci. Et on le dit à toi et à tous tes camarades qui nous la font vivre.
Merci.
Et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, parce que l'épisode caméra est achevé, parce que ça a été tourné pour le canal Savoir, et c'était ce qui nous imposait le chrono, en fait, c'était la durée de l'émission. Maintenant que cet épisode est achevé puis qu'on est entre nous, on peut se gratter le nez, déjà. Mais on peut échanger. Alors, il y a des micros de chaque côté. Moi, mon plaisir à venir vous voir, un, c'est de vous voir, déjà, parce que tout seul dans mon studio, tu sais, je vois bien mon réalisateur. C'est un beau garçon. Oh, il est beau. Il est-tu ici, là? Il est là, hein? Bon. Il est beau. Il est tellement beau. Mais bon, tu sais, à un moment donné, une fille se tanne, tu sais. Elle veut changer de vis-à-vis, tu sais.
Oui.
Alors, ça me fait plaisir de vous voir, mais ça me ferait encore plus plaisir, parce que c'est encore plus rare de vous entendre. Je sais pas, venez nous raconter un souvenir, posez-nous des questions, si vous voulez, puis on répondra si c'est possible.
Si on sait la réponse.
Si on sait la réponse, si on veut la dire aussi. Les questions sont trop indiscrètes. Il y en a une qui ose, c'est bien. Après, les autres, ils vont voir que ça fait pas mal.
Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci pour cette magnifique présentation. J'avais une question pour M. Gagnon. Vous avez parlé de Catherine Major. J'aimerais savoir qui vous voyez poindre à l'horizon du côté masculin chez les auteurs, compositeurs. Oui, principalement.
Je dois dire que je ne le sais pas. C'est la vérité. Toi, est-ce que tu pourrais me guider sur quelqu'un que je connais sans savoir que je le connais?
Oui. Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas tous ceux que tu connais, tu comprends? Mais moi, je te soufflerais bien Martin Léon.
Ben, Martin Léon, ben, c'est parce que je ne le considérais pas comme quelqu'un de fraîchement nouveau.
Ah, ben non, parce qu'il n'est pas fraîchement
mais Martin
nouveau.
Léon,
mais
justement,
temps...
Martin Léon, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je t'en
Est-ce
parle
que vous
de
considérez
temps
que c'est quelqu'un de fraîchement nouveau, Martin Léon?
Non.
Non. Vous voulez du plus neuf que ça? Vous, là,
oui, oui.
Bien.
Ben moi, j'ai un nom en tête, mais je n'ose pas.
Mais allez-y. Il y en a une quantité, mais il y en a... moi, je vous dirais Philémon, comme ça, spontanément. Je vous dirais Alex Nevsky, spontanément. Je vous dirais Philippe B., je vous dirais, parce que en fait, l'important, c'est aussi de voir le petit chemin qu'ils ont fait. Parce qu'on peut avoir une chanson, on peut avoir deux chansons, mais ça en prend plus que ça pour dire d'un jeune qu'il est prometteur. Martin Léon a fait guère plus de disques que Catherine Major. Catherine va sortir son troisième. Martin, on en est à peu près ça, là, 3-4. Donc, ça met du temps. Hein? On dit encore d'artistes comme... moi, je ne le dis plus, mais les artistes émergents. C'est quoi un artiste émergent? À partir de quel âge tu finis d'émerger? Comprends-tu? Je dis, tu ici, tu là, t'émerges, mais... c'est-tu les yeux, le nez, la bouche, les, tu sais, t'émerges, mais bon. Jusqu'où t'émerges, tu comprends? Jusqu'à marcher sur les eaux? Ben, allez, dis donc, à qui vous pensez?
Ben, je vais oser le nommer Stéphane Côté.
Oui, Stéphane Côté, bien sûr. Mais Stéphane Côté...
qui est peu connu, je pense.
Stéphane est plus vieux que Catherine, vous voyez? Et il roule sa bosse, Stéphane, depuis longtemps, longtemps. Moi, je l'ai vu à Petite-Vallée. Je veux dire 99, peut-être. Non, ouais, ça fait 13 ans de ça, déjà, vous voyez? Et il n'est pas très connu, mais pourtant, il roule bien sa bosse. Il roule surtout sa bosse en France. C'est un choix qu'il a fait aussi, parce qu'il y a beaucoup de festivals en France et d'événements où il peut gagner sa vie, où il y a un public. Je l'ai vu en Suisse l'année passée. Et il est plus connu là-bas qu'ici.
Ah oui.
Hein, parce qu'il y va souvent, parce que les gens qui sont férus de chansons québécoises en Suisse, et il y en a, mais il y a un festival aussi qui est présenté tous les deux ans.
Est-ce qu'il a qu'un seul album?
Il y a, oui, absolument. Il y en a même deux. Ah, hein, okay. Il y en a deux au moins, madame. Hein?
Pardon?
Stéphane, l'album de disque?
Il est en train de préparer le quatrième. Et ce soir, il était justement, je pense, avec Linda Lemay en première partie en France.
Bien, voyez.
Oui.
Ouais. J'ai hâte qu'on le connaisse. Retenez ce nom, la suggestion de madame, Stéphane Côté.
Ouais, moi, je m'en rappellerai, Stéphane Côté. Je vais faire ce qu'il faut pour l'entendre.
Merci.
Merci, madame. Merci. Ouais. Vous voyez, non seulement ça fait pas mal, mais on vous applaudit par-dessus le marché. Est-ce que quelqu'un d'autre va oser venir? Allez-y, s'il vous plaît.
Ah,
on aime ça, nous autres. Ça nous permet de nous taire un peu deux minutes.
Peut-être quelqu'un qui s'en va.
Alors, on a eu peur que vous partiez.
dans ces rappels que vous nous faites de toutes ces belles choses qu'on a entendues, je voulais juste qu'on retrace un peu des choses qu'on avait... connu peut-être avant, là, parce que moi, j'existais aussi un peu avant, puis qu'on retrouve maintenant, parce que Vigneault, par exemple, dans son dernier spectacle, fait la chanson à répondre. On a eu la chanson à répondre tout au long de ses 50 ans, dans différents spectacles, surtout quand on était sur la montagne ou quand on était au 24 juin ensemble, mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'identité québécoise qui peut se canaliser, si on peut dire, en tout cas se vivre dans ces chansons à répondre. Or, les chansons à répondre, ça existait bien avant.
Ah, bien
c'est
sûr
que la source était française.
Il fallait qu'on se concentre ici sur 50 ans.
Oui, je comprends, mais je parlais peut-être de forme.
Oui.
Pas seulement de texte, bien sûr de musique, mais aussi la bonne chanson là-dedans. Mm. C'est sûr que la bonne chanson, c'était... essentiellement français, mais ça a été, en tout cas, ça c'est des histoires de ma famille, donc mes tantes et mes oncles ont travaillé avec la Big Quatre Bois à la bonne chanson, mais c'était fait à la québécoise de l'époque, là, des années 40, et c'est à la source, j'imagine, d'un certain nombre d'autres choses qui se sont passées après.
Mais André, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que c'est à la source de tout. C'est-à-dire qu'on vient de là. Et en France, on dit « tout commence et tout finit par des chansons ». Mais je pense que si on avait été plus vite les Français sur ce coup-là, on l'aurait pris, cet adage, pour nous. Parce que la chanson, dans ses origines à la base, elle n'est pas interprétée par des vedettes sur des scènes. Elle est à tout le monde. Elle est interprétée par une mère à son bébé pour l'endormir. Elle est interprétée par une religieuse à ses élèves pour la prière du matin, ça appartient à chacun. Et bien plus que... D'ailleurs, je regrette que ça ne se pratique plus beaucoup, la chanson, dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on a laissé ça à ceux qui en ont fait un métier. Mm-hmm. Mais ce n'est pas incompatible. On pourrait, en effet, apprécier ceux qui en ont fait un métier, mais continuer aussi à pratiquer autrement que des karaokés en essayant de faire semblant de chanter comme les autres. Des chansons. Je ne sais pas, André, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as rendu hommage à la Bolduc aussi, toi?
Ben, j'attendais que tu finisses ta phrase pour parler de la Bolduc. Non, mais c'est vrai, parce que ce que vous venez de dire, ça m'a fait penser à la Bolduc, dont on n'a pas parlé ce soir.
Ben non, parce qu'elle était décédée au moment de l'inauguration du ministère de la Culture, dont on souligne ici les 50 ans.
OK. Elle était déjà disparue. OK. Mais elle a été très importante à son époque.
Ah ben oui, bien sûr.
Et moi, je l'ai connue assez tard dans ma vie, mais attends pour me pencher sur quelque chose, pour faire quelque chose qui la concernait.
C'est la mère de la chanson moderne.
Ben, hein, écoutez, moi, je viens d'une famille très, très nombreuse où il y avait un petit concert privé dans le salon à la fin de l'avant-midi du dimanche. Mon Dieu, que ça a été laborieux. On était seulement la famille, là. Je ne parle pas des voisins. Les voisins n'étaient pas invités. C'était un petit concert privé. Ce n'était pas un concert. C'était juste que ma soeur Yvette jouait du piano, puis elle était au piano, puis elle accompagnait tout le monde qui chantait. La chanson, dans ma famille, moi, c'était presque la parole. C'était quelque chose d'aussi évident.
Ouais.
Et moi, bon, ben, je suis né là-dedans, puis quand je suis arrivé dans la famille, j'étais le dernier de 19 enfants.
Et de la même mère?
De la même mère et du même père.
Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué ma question de la même manière.
Mais pour plusieurs d'entre nous, c'est aussi le temps de faire la vaisselle, c'est aussi faire les balades en auto, avant qu'on mette les trucs dans les oreilles. On s'animait à partir de ce qu'on voyait.
Ça rapprochait. Maintenant, les écouteurs isolent, hein, c'est vrai, oui.
Mais en tout cas,
quand on lave la vaisselle, ben, on parle de la construction, puis de la corruption, puis on fait des gaz de schiste.
Merci beaucoup.
Merci, madame. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à André Gagnon et Monique Giroux.
Je pense que c'est fini. On devrait saluer.
Hein? Comment c'est ça? Vas-y, OK.
Merci.
On a-tu été un cadeau, M. Bertium?
Oui, tout à fait. Si vous avez bien compris le principe, tous les deuxièmes mardis, 19h30, toute l'année jusqu'en juin, la prochaine fois, le 8 novembre, 50 ans d'art visuel, Louise Derry et Raphaël de Groot. Donc, on se retrouve 8 novembre, 19h30. Bonne fin de soirée.
Bon anniversaire. Ben oui, je vais t'en remercier.
Merci, monsieur. Merci.